bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy!
Allô, allô! Bienvenue au Lobster 87.0. J'espère que vous avez aimé notre épisode de la semaine passée. Moi, j'ai terminé d'écouter Tintin et les bijoux de la Castafiore et je me suis lancé dans le radio-roman Les cigares des pharaons qui est aussi bon. Si vous avez aimé, je vous invite à les écouter via l'application Radio France que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et juste faire une recherche sur Tintin. Vous allez voir, il y en a d'autres comme Tintin et le Temple du Soleil qui sont disponibles aussi. Sinon, quoi de neuf cette semaine? Il y a la nouvelle BD de Lucky Luke qui est sortie au Québec. C'est une bonne idée de cadeau, je crois, pour Noël. La BD se nomme Un cowboy dans le coton. Je l'ai lu et c'est très bon. Et pour le nouveau Astérix, le menhir d'or, c'est pas mal pout-pout. Je l'ai pris dans mes mains au Renaud-Bré et c'est pas vraiment une BD. Quand tu la regardes, il y a une page remplie d'écriture et un gros dessin de l'autre côté. C'est assez moche. Donc, si vous avez le goût de lire une bonne BD d'Astérix, il ne faut surtout pas acheter le menhir d'or. Ça ressemble plus à ces livres qu'ils font qui sont tirés d'un film où d'un côté, il y a du texte et de l'autre, une image de temps en temps. Donc voilà! Cette semaine, j'ai plein de sujets intéressants. Je vais vous parler des 100 livres du siècle, un genre de classement des meilleurs romans qui inclut du théâtre et de la poésie ainsi que les bandes dessinées. Donc, un classement très large qu'on va regarder pour le plaisir. Ensuite, un autre palmarès, celui des articles francophones les plus regardés dans Wikipédia. Je suis tombé là-dessus et j'étais curieux de voir. Donc, on regarde ça ensemble un peu plus tard. Et finalement, plein d'autres sujets qui s'ajouteront à mesure que je prépare l'émission. Donc voilà, c'est le plan pour cette semaine. Je vous souhaite donc un bon Lobster.
Commander Chakotay, we have entered the domain of species 8472. Report to the cargo bay.
You were.
Bon, avant de vous parler des 100 livres du siècle, je viens d'apprendre que ma grand-mère de 97 ans a été testée positive au COVID. Oh là là! Elle habite dans une résidence pour aînés au Saguenay. Il y avait eu un premier cas durant la semaine et évidemment, ça s'est propagé. Ils ont testé tous les résidents et ma grand-maman fait partie de ceux qui ont reçu un test positif. Pour l'instant, ma grand-mère n'a pas de symptômes, en espérant que ça reste comme ça. J'imagine que parmi nos lobsters, il y en a pour qui aussi le COVID a sûrement fait son entrée dans leur famille. C'est pas le fun, mais on peut rien faire autre qu'espérer le mieux. Moi, c'est le premier cas pour une personne proche. J'avais espoir, avec le vaccin qui approche, qu'on serait peut-être pas touché, mais bon. Pour l'instant, je croise les doigts en espérant que ça se passe bien pour elle. Sinon, sur une note plus joyeuse, les 100 livres du siècle est un classement français de livres considérés comme les 100 meilleurs du 20e siècle. C'est un classement qui a été établi en 1999 à partir d'une liste proposée par les journalistes du Monde et les libraires de la FNAC qui a fait l'objet d'une consultation populaire. Donc, c'est pas la liste ultime, mais j'étais quand même curieux de regarder avec vous ce qu'il y a dans cette liste. La question qui était posée aux 17 000 Français était « Quels livres sont restés dans votre mémoire? » Si moi on me posait cette question, je dirais en premier la série La Compagnie des Glaces et en deuxième Le Seigneur des Anneaux. Ce sont les deux séries de romans qui m'ont marqué le plus. Voyons donc voir dans la liste ce que les 17 000 personnes, elles, ont pensé. Le premier livre qui sort de cette liste est L'étranger d'Albert Camus. Ce livre est le troisième roman francophone le plus lu dans le monde, après Le Petit Prince de Saint-Exupéry et Vémilieu sous les mers de Jules Verne. Ce livre fait partie d'une série de quatre livres qui font partie du cycle de l'absurde. Bon, je suis désolé, mais ça me donne tellement pas le goût de le lire d'après cette description, mais on va faire l'effort de lire le premier paragraphe. En scène. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. Voilà. Maintenant, le second livre de cette liste. Souhaitons, nous ici, de trouver de quoi d'intéressant qui pourrait devenir une idée de cadeau de Noël. Donc, deuxième place, À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, paru de 1913 à 1927 sous forme de 7 tomes. Qu'est-ce qu'on en dit? Plutôt que le récit d'une séquence déterminée d'événements, cette œuvre s'intéresse non pas aux souvenirs du narrateur, mais à une réflexion psychologique sur la littérature, sur la mémoire et sur le temps. Donc, ça ira pas dans mon bon Noël, oh non! Mais lisons le début quand même pour se faire peur. Il y avait déjà dans des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ses gâteaux courts et dodus appelé Petite Madeleine qui semblait avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jean. Oh là là! Bon, même là, c'est difficile à lire. Les phrases me semblent déjà interminables. En tout cas, bon, on va poursuivre le palmarès. En troisième place, ça change un peu de ce registre qu'on vient de voir, c'est Le procès de Franz Kafka. Ce livre relate les mésaventures de Joseph K. qui se réveille un matin et pour une raison obscure est arrêté et soumis aux rigueurs de la justice. Au matin de son 30e anniversaire, Joseph K., jeune cadre travaillant dans une banque et vivant dans une pension, est arrêté de façon inattendue par deux mystérieux agents pour un crime non précisé et qui ne le sera jamais. Les agents refusent de nommer l'autorité qui les envoie. Bon, ouais, notre palmarès n'est vraiment pas à mon goût pour l'instant. Je ne l'avais pas regardé avant de décider de vous en parler et plus ça avance, moins je m'y retrouve. Mais, espoir, je vois du bon qui s'en vient. Disons que si j'avais fait sciences humaines, je reconnaîtrais probablement plusieurs titres dans la liste. Mais non, moi je dois me rendre à la position 18 pour trouver un livre marquant que je connais bien et qui est Le Lotus Bleu de Hergé. Et oui, un album de Tintin dans son palmarès. Un livre qui semble avoir marqué bien des Français. Sinon, un autre que je n'ai pas lu, mais que j'ai vu en film et qui se trouve un petit peu plus haut dans le palmarès, en 14e position, c'est « Le nom de la rose » de Umberto Eco. C'est un roman d'enquête médiévale. Le film, lui, met en scène Sean Connery dans le rôle principal et vaut la peine d'être vu. Et ça parle de quoi, « Le nom de la rose » En 1327, alors que la chrétienté est divisée entre l'autorité du pape Jean XXII et celle de l'empereur Louis IV, du Saint-Empire, l'ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville se rend dans une abbaye bénédictine située entre la Provence et la Ligurie, accompagné par son jeune secrétaire Azzo, qui est le narrateur de l'intrigue. Dans un climat de conflit théologique entre les franciscains et l'autorité pontificale au sujet de la pauvreté du Christ, servant avant tout de façade au conflit politique entre le pape et l'empereur, l'ancien inquisiteur doit enquêter, à la demande de l'abbé, sur la mort suspecte d'un des moines. Rapidement, ce que beaucoup semblaient considérer comme un suicide prend des allures de plus en plus inquiétantes. Je ne sais pas si le film est fidèle au livre, mais l'intrigue était très bonne dans le film et à la fin, pas mal bonne quand tout est dévoilé. Même si la musique est meilleure que notre palmarès, retournons à celui-ci. Et allons-y cette fois dans le désordre, question de trouver des suggestions plus intéressantes. En 23e place, il y a Astérix le Gaulois d'Uderzo et Goscinny. Enfin de la lecture qui pourrait se retrouver dans un bas de Noël et ferait plaisir. En 44e position, il y a Le Chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une histoire du célèbre Sherlock Holmes. Dartmoor, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Selon une légende vieille de plusieurs siècles, un chien démoniaque crachant du feu de sa gueule géante pourchasserait les membres de la famille Baskerville. Lorsque Sir Charles décède dans des circonstances troubles, Sherlock Holmes et le docteur Watson enquêtent. Ils doivent protéger le dernier descendant de la famille, Sir Henry, revenu du Canada pour hériter du domaine familial. Ce livre, pour l'avoir lu, est de la bonne lecture. Et quand je pense à Sherlock Holmes, je pense aussi à Hercule Poirot et à Agatha Christie. Et est-elle dans notre palmarès avec un petit livre? Eh oui, juste un peu avant Sherlock Holmes, en 41e place, elle est là avec Le meurtre de Roger Ackroyd, qui raconte tout simplement, comme le titre l'indique, Le meurtre de Roger Ackroyd. Et maintenant, eh oui, Le Seigneur des Anneaux est aussi dans ce palmarès en 58e position. Ok. Allons-y avec un chiffre au hasard maintenant pour découvrir quelque chose. Tirons une boule de mon boulier de bingo.
G48.
Donc, en G58, on a La montagne magique de Thomas Mann, écrit en 1924 en Allemagne. Le livre, dont l'intrigue se déroule au tout début du 20e siècle, relate l'expérience singulière de Hans Castorp, jeune ingénieur originaire de Hambourg, venu rendre visite à son cousin Joachim Zissem, en cure à la station alpine de Davos au sanatorium Berghof. Le héros, fasciné par le microcosme des gens d'en haut et bercé par leur rythme de vie, se découvre bientôt une pathologie bien singulière. Voilà, et pour terminer notre revue de ce classement, on va aller voir la dernière position. Donc, en 100e position, c'est un livre marquant pour toute la littérature. Le livre se nomme « Le jeu de la reine ». Ce livre raconte l'histoire suivante. Après des années de quiétude, le Sandamore, une terre peuplée d'innombrables créatures, voit sa paix menacée par les troupes de l'ombre fanatiques vénérant l'ancien culte de la perfide Salma d'Outre-Tombe, reine incontestée du Kiskinda. Alors que l'histoire naît et s'enchevêtre autour de 5 médaillons de pouvoir, un groupe de compagnons sera amené sous l'égide d'Ambretour, la légendaire demeure des Raika, à canaliser des forces magiques d'une puissance inégalée. Humains à la solde d'un roi cruel, éther au pouvoir psychique, Alaris de la Grande Plaine de l'Est, Silvre du Bois des Mondelles et peuple exilé seront-ils s'allier avant qu'un grond de feu, la montagne volcan, ne s'éveille pour leur cracher son mécontentement? Même Brima, l'astre de la nuit, dont la fille est à naître et les imprévisibles pixies partis à sa recherche, ne semblent le savoir. Le jeu de la reine est l'histoire épique d'un groupe de gens ordinaires promis à un destin extraordinaire. Et c'est écrit par Frédéric Lavoie. Ah, ben oui, c'est moi qui l'ai écrit. Et c'est très dur à trouver en magasin, car la majorité des 150 exemplaires que j'ai fait imprimer se trouvent dans une armoire chez moi. Donc, il faut m'écrire si vous voulez avoir une copie gratuite. Voilà!
This book is dangerous. Ready? Knocks and box, box and socks. Knocks on fox and socks and box. Socks on knocks and knocks and box. Box and socks on box and knocks. Chicks with bricks come, chicks with blocks come. Chicks with bricks and then blocks and clocks come. Let's do tricks with bricks and blocks, sir. Let's do tricks with chicks and clocks, sir. First I'll make a quick trick brick stack, brick stack. Then I'll make a quick trick block stack, block stack. You can make a quick trick chick stack. You can make a quick trick clock stack. Look, sir, Mr. Knox. And here's a new trick, Mr. Knox. Socks on chicks and chicks on fox. Fox on clocks and bricks on blocks. Bricks and blocks on knocks on box. Now we come to ticks and tocks, sir. Try to say this, Mr. Knox, sir. Fox on fox tick, clocks on fox talk. Six sick bricks tick, six sick chicks talk. Please, sir, I don't like this trick, sir. My tongue isn't quick or slick, sir. I get all those ticks and clocks, sir, mixed up with the chicks and talks, sir. I can't do it, Mr. Fox, sir. I'm so sorry, Mr. Knox, sir. Here's an easy game to play. Here's an easy thing to say. New socks, two socks. Whose socks? Sue's socks. Who sues? Whose socks? Sue sues Sue's socks. Who sees? Who sues? Who's new socks, sir? That's not easy, Mr. Fox, sir. Who comes? Crow comes. Joe slow. Crow comes. God damn it. Who sews crow's clothes? Sue sews crow's clothes. That one's hard. Sue sews socks of fox in socks now. Slow Joe Crow sews knocks in box now. Knocks and box, box and socks. Knocks on fox and socks and box. Socks on knocks and knocks and box. Box and socks on box and knocks. Chicks with bricks come, chicks with blocks come. Chicks with bricks and blocks and clocks come. Let's do tricks with bricks and blocks, sir. Let's do tricks with chicks and clocks, sir. Mr. Knox, sir, what a shame, sir. This is real. It's real. I'm not gonna finish it. It's too long. It's like really long. It goes on for like a little bit. Chicks with bricks come, chicks with blocks
come. Chicks with bricks and blocks and clocks come. Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds? Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire, je dois le croire. Malgré les hauts, les bas, je sais m'accorder un dernier essai. Je vois la vie me faire un signe, j'ai lutté pour.
je crois que tout va bien jusqu'ici. Quittez pas un cœur indécis. L'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie. Je reprends mes esprits. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Quittez pas un cœur indécis. L'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie. Je reprends mes esprits.
Quand je suis sûr, je fais l'effort. Et qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort. Et si c'était un coup du sort, malgré les doutes, je prends sur moi. Tu sais les coups, je ne les sens pas. Je me relève, je ne tremble pas. Je vis, je vois, ne t'en fais pas.
Et je crois que tout va bien.
D'écouter Maître Gims avec Jusqu'ici tout va bien. C'est tout chaud, tout beau, c'est sorti le 3 décembre sur YouTube. Moi j'aime bien les chansons de cet artiste. Maintenant, le top 20 des articles Wikipédia les plus lus. Ici on parle des articles en français. Des articles écrits en majorité par 74% de Français, 7% de Canadiens, 5% de Belges, 3% Suisses, 2% Algérie et 1% des Marocains. Le 10% restant étant écrit par le reste du monde. Et à votre avis, quelle est la page qui est la plus consultée avec plus de 8 millions de vues, avec plus de 20 000 visites quotidiennes? C'est la page Wiki sur la France. Avec la moitié moins de trafic, la deuxième page la plus consultée est celle de Freddie Mercury, probablement grâce au film Bohemian Rhapsody. Ensuite, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl arrive en dixième position en raison de la mini-série Tchernobyl. L'actualité est également un motif important pour consulter Wikipédia. Ce qui amène la page de la cathédrale Notre-Dame de Paris à être la quatrième la plus visitée. Il y a aussi la reine Elisabeth II qui est dans le top 10 en 7e position et gageons que la série The Crown y est pour quelque chose. Il y a aussi le football qui amène les gens à consulter des pages Wiki. Cristiano Ronaldo, 3e position, Lionel Messi, 6e, Kylian Mbappé, 14e et plein d'autres, mais bon, j'en connais aucun. Voilà, ça vous donne une idée de ce qui attire le plus les gens sur les pages Wikipédia en français. Et moi, qu'est-ce que je vous conseille de visiter? Eh bien, ça serait cette page très populaire, orientation du papier de toilette. Et oui, il y a un wiki qui explique les deux orientations possibles, l'orientation par-dessus et l'orientation par-dessous. Et saviez-vous qu'il existe de nombreuses théories sur ce qui pourrait révéler la préférence d'une personne selon son âge, le sexe, le statut socio-économique ou l'orientation politique? Le choix de l'orientation du papier de toilette révélerait aussi un aperçu de certains traits de la personnalité, comme la fiabilité et la flexibilité. Enfin, il pourrait y avoir une corrélation entre ce choix et le fait de posséder un camping-car ou un chat. Comme quoi, on ne trouve pas que des pages pertinentes sur Wikipédia. Une autre page dans ce style est la page « Bombe à chauve-souris ». La bombe à chauve-souris est une arme expérimentale de la Seconde Guerre mondiale développée aux États-Unis. Ces bombes étaient constituées d'un réservoir en forme de bombe et contenaient de nombreux compartiments. Chacun d'eux contenait une chauve-souris de genre Tadaril du Brésil, équipée d'une petite bombe incendiaire reliée à un système de déclenchement à retardement. Largué à l'aube depuis un bombardier, le conteneur devait déployer un parachute à mi-chute, puis s'ouvrir pour libérer les chauves-souris. Celles-ci iraient alors se percher dans les corniches des toitures et les greniers. Des incendies se déclareraient alors dans les endroits inaccessibles des maisons majoritairement constituées de papier et de bois, dans les villes japonaises, cibles désignées de cet armement. C'est pas beau Internet, on peut y lire des choses qu'on ne soupçonnerait même pas.
Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend, and I had to tell you where we were last year. It's not confidential.
mis de côté cet article pour vous en parler. Un autre Super Mario prend le titre du jeu vidéo le plus cher jamais vendu. Le jeu vidéo est protégé par un étui de plastique transparent. Au-dessus, on aperçoit des indications chiffrées et notées sur la qualité de l'état physique de l'objet. Cet exemplaire du jeu Super Mario Bros. 3 a une caractéristique bien particulière qui en fait un modèle très rare. Le mot « Bros » est inscrit à gauche et déborde sur un gant blanc de Mario. Il se trouve plus à droite sur l'immense majorité des exemplaires vendus. Et cet exemplaire non déballé de Super Mario Bros. 3 s'est vendu 204 200 $ canadiens aux enchères vendredi dernier, battant un record établi précédemment par un autre jeu de la série. La personne qui a vendu le jeu a découvert ce petit trésor au fond d'une garde-robe. Le jeu se détaillait à 65 $ canadiens à sa sortie en 1990 sur la console Nintendo. Les offres concurrentes d'une vingtaine de personnes qui participaient aux enchères ont mené à la hausse vertigineuse du prix du jeu. D'un minimum évalué à 80 000 $, cette somme a monté jusqu'à 204 200 $. Le record précédent avait lui été établi à 149 000 $ par un exemplaire scellé de Super Mario Bros. Sorti en 85 sur la même console. Voilà, les jeux de notre enfance se vendent à des prix un peu fous. Une autre nouvelle. Un mystérieux monolithe de métal a été découvert dans un désert de l'ouest des États-Unis, enflammant l'imagination des passionnés d'ovnis et fans de Stanley Kubrick à travers le monde. Le bloc triangulaire étincelant, qui dépasse de plus de 3,5 mètres le sol rougeâtre du sud de l'État de l'Utah, a été découvert mercredi dernier par des responsables locaux ébahis qui survolaient la zone pour compter les spécimens de mouflons. Après avoir atterri, ces employés du département de la sécurité publique de l'Utah ont pu examiner le monolithe de métal, ne découvrant aucune indication claire de ce qui aurait pu le placer là. L'annonce de cette découverte est vite devenue virale sur Internet, beaucoup notant des similarités avec les étranges monolithes extraterrestres du film Stanley Kubrick 2001 « L'Odyssée de l'espace ». D'autres y ont vu un symbole d'espoir face aux défis de l'année 2020, comme cet utilisateur d'Instagram suggérant qu'il pourrait s'agir d'un bouton de réinitialisation, ou cet autre utilisateur plaisantant « De plus près, on peut y lire « Vaccin contre le COVID-19 » à l'intérieur. » Les autorités, se refusant à révéler la localisation du monolithe pour ne pas attirer des hordes de curieux, une course s'est engagée en ligne pour déterminer son emplacement en se basant sur les formations géologiques alentour. Voilà, bon, j'ai lu qu'il y avait un update sur cet article. Mardi, des images ont été diffusées sur Internet montrant quatre hommes s'affairant de nuit pour démanteler cet étrange monolithe qui a suscité l'intérêt dans le monde entier, donnant lieu aux spéculations les plus échevelées sur son origine. Le photographe Ross Bernard, qui se trouvait sur place vendredi soir, a décrit sur Instagram la scène dont il a été le témoin, cliché à la pluie. Il a vu quatre hommes qui surgissent, mettent à bas le prisme métallique de plus de 3,5 mètres de haut et le démontent avant de l'emporter dans une brouette vers une destination inconnue. Coïncidence, au même moment où l'étrange monolithe de métal était retiré, à la Maison-Blanche, Donald Trump déclarait « Non, non, je n'ai pas perdu et je vous le prouverai bientôt ». Donc, on croit que les deux incidents sont liés car Donald Trump aurait, paraît-il, été filmé à genoux devant ce fameux monolithe de métal où il aurait communiqué avec des intraterrestres qui lui auraient certifié que des bulletins de vote en sa faveur ont disparu. Donc, c'est à suivre. Je pense qu'on n'a pas terminé d'entendre parler de Donald. Comment conclure ce Lobster? Eh bien, en vous parlant de ce mot qu'une amie m'a fait découvrir. C'est le mot « créma ». Pour vrai, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qui caractérise un expresso parfait? Certains diront que le secret réside dans la fine mouture des grains de café. D'autres suggéreront que cela passe par l'équipement que vous possédez. Plusieurs personnes affirmeront toutefois qu'un expresso sera à son apogée seulement si, pendant son extraction, il se forme la créma. Alors, qu'est-ce que cette créma tant recherché. Qu'est-ce que la créma sur le café exactement? La créma est une légère mousse d'un brun rougeâtre qui repose sur le dessus d'un café expresso pendant quelques minutes après son extraction. Cette mousse est formée lorsque les petites bulles d'air se combinent aux huiles solubles des grains de café finement moulus pour créer une émulsion. La créma est une mousse aromatique et savoureuse qui procure un goût plus riche et complexe au café. Sa formation est généralement un bon indicateur de la qualité de ce dernier. Voilà, c'est-tu pas beau? Finir par un volet éducatif. Sur ça, je vous laisse écouter la fin du Lobster et on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine!
What have I become? And what have I done? I spoke to the devil today. He swears he's not to blame. I understood, 'cause I feel the same. With arms wide open, I stand alone. I'm no hero, and I'm not made of stone. Am I right or wrong? I can hardly tell, 'cause I'm on the wrong side of heaven and the righteous side of hell. The wrong side of heaven and the righteous side of hell. I heard from God today, she sounds just like me. What have I done, and who have I become? I saw the devil today, and he looks just like me. So I looked away, I turned away. With arms wide open, I stand alone.
I can hardly tell, 'cause I'm on the wrong side of heaven. righteous side of hell.
Throwing hard Mike's working all the time, renting out your mind and saving every dime. Because in 10 of those combined, they cross a sacred line and go from pocket change.
Ah bah tiens, je me disais, il va pas être là.
Moi pareil, je me suis dit mince, qui c'est qui frappe?
Non c'était moi, parce que moi c'est pareil, je savais pas où vous étiez. Alors je me suis dit, il va être là ou il va pas être là? Pour ça je suis venu taper.
Bon qu'est-ce qu'on fait, on se met au boulot?
Allez, on se met où? Dans votre chambre?
Ah, travailler dans sa chambre, il paraît que c'est pas sain.
Ouais, et la salle d'armes, il y a Arthur qui s'entraîne.
La salle à manger, les larbins sont encore après débarrasser le midi.
La table ronde, ils vont pas nous l'ouvrir? Non c'est malheureux hein, y a pas 50 solutions.
La taverne. Bon.
Non, puis au château, on connaît trop de gens. On est sans cesse sollicité, on peut pas se concentrer.
Seigneur Perceval par-ci, Seigneur Caradoc par-là. À croire qu'on n'est pas là, y a plus rien qui tourne.
Ok, c'est un peu vrai aussi.
Non. Quand y a pas d'imprévu, dans l'ensemble, ils s'en sortent.
Voilà. Mais dès qu'il y a une tuile, ils sont pas foutus de régler le truc sans nous.
Ça... Stop ! Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que vous pouvez pas entrer.
Vous êtes inondé ?
Disons que j'ai des fuites. Des fuites de pognon.
On vous vole du pognon ?
Disons qu'on m'en doit, ça revient au même.
Mais du coup, vous fermez la boutique ?
Je la ferme pour ceux qui me doivent le plus. Parce que figurez-vous que hier, c'était jour des comptes.
Eh ben, vous me croirez, vous me croirez pas.
Mais si on cumule ce que vous me devez depuis que vous fréquentez l'établissement, on arrive à une somme supérieure au prix de l'établissement susci nommé. Attention, en plus des murs, je compte les stocks et le terrain.
Vous êtes sûr de votre coup, là ?
Vous avez peut-être fait une erreur, là.
Il n'y a pas d'erreur possible. Vous ne foutrez plus les pieds chez moi tant que vous n'aurez pas remboursé toutes vos dettes. Jusqu'au dernier rond. Attention, hein ! Je vous préviens, je serai inflexible.
C'est pas faux.
Mais vous pouvez pas faire ça, il y a crime.
Vous avez quand même nous laisser rentrer, allez, quoi.
Mais vous pourrez rentrer tant que vous voudrez, quand vous aurez casqué. En attendant, bah, vous buvez de l'eau, vous allez entamer une ardoise chez la concurrence. Moi, je ferme les robinets.
Mais c'est complètement con, on sait même pas combien on vous doit.
Ah bah justement, je vous y ai marqué en gros, là-dessus, pour que vous ayez l'idée du préjudice.
Ouais, c'est pas faux.
Bon. Eh ben maintenant, vous vous tirez, vous reviendrez quand vous aurez trouvé une carriole pour y entreposer tout le fric que vous me devez. C'est clair ? Allez, oust !
Pourtant, je vous aimais bien.
Eh ben, je peux vous dire que vous manquez pas de cran. Venir me demander à moi de rembourser vos dettes de bistrot...
J'ose espérer que si le roi accède à votre requête, cet épisode honteux vous serve de leçon.
Bah évidemment.
Maintenant, on va faire attention.
Mais... Parce que figurez-vous que je serai pas toujours là pour éponger les conneries. Non, mais sans ça, c'est trop facile, c'est vrai. C'est ça. Je sais même pas ce que je lis, là. C'est quoi, ça ?
Bah, ça, c'est la somme qu'on doit, il paraît.
Combien ?
Ah ! Hey ! Attendez, il dit 5 ans. Je suis sûr que si on met un bon coup de collier, on peut lui rembourser le tout en 4. Peut-être même en 3.
En plus, je vois pas ce qu'il y a de mal à faire un peu de travail manuel.
Mais ouais, c'est un métier de contact, on apprend plein de choses.
Et c'est quoi qu'on doit faire après ? Laver par terre ?
Ah non, faut faire les jambes d'abord.
Ah ouais, c'est classe. Comme ça, je vais apprendre à faire les lits. Après, je pourrais faire le mien tout seul.
Et ça me fait penser qu'il faut que j'aille saler les fromages à la cave.
Hé, sans déconner, on est les rois là ou pas ?
Vous croyez qu'un jour, elle me laissera m'occuper du comptoir ?